Dans les PME, on a tendance à dire « tiens, je vais faire évoluer mon salarié et puis je vais le nommer manager ». Il y a plein de personnes qui ne sont pas capables et qui n'ont pas envie d'être manager. Et si on les met à un poste avec du management humain, ça peut vraiment arriver, on peut vraiment arriver à des catastrophes.
Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes, celui de soutenir les entrepreneurs qui donnent du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur vision.
Bonjour, je suis Raphaël Barré, co-dirigeante de Cube RH et responsable de l'offre Stratégie RH, et je suis accompagnée de Quentin.
Bonjour, moi c'est Quentin Barré, dirigeant de la société Cube RH sur le pôle recrutement.
Et aujourd'hui, on va vous parler des enjeux RH des TPE et des PME.
J'ai créé Cube RH il y a maintenant plus de 7 ans. Mon enjeu était de remettre l'humain au cœur des organisations. Et étant un vrai spécialiste de l'informatique, j'ai tout naturellement orienté la partie recrutement sur l'IT, la data, la cybersécurité, mais également le recrutement de cadres dirigeants, mais également dans l'accompagnement de start-up.
Et moi, j'ai à cœur d'accompagner les TPE et les PME qui représentent finalement la cible de nos clients sur des problématiques qui peuvent être diverses et variées et qui sont surtout celles de la taille de l'entreprise.
Chapitre 1. Regarde ensemble sur les enjeux humains de l'entreprise. Aujourd'hui, dans une TPE-PME, ce que l'on demande aux salariés, c'est d'une part d'être engagé, certes, d'être fidèle, oui aussi, mais aussi d'être productif, c'est-à-dire faire le travail pour lequel on les a engagés, pour lesquels on leur fait confiance. Et là, c'est un enjeu principal pour les TPE-PME parce que souvent, le dirigeant, il est au four et au moulin. Il n'a pas le temps de pouvoir suivre efficacement parfois les différentes missions, les différents objectifs à atteindre. Et donc nous, on est là vraiment pour pouvoir restructurer, remettre du cadre de la RH pour que le dirigeant puisse avoir cette bouffée d'air et se concentrer sur son cœur d'activité.
C'est vrai que ces dernières années, moi j'ai observé quand même de nombreux changements dans le monde du travail de manière générale. Et quand je vais parler des dernières années, on va partir déjà de 2020. Ces périodes de confinement sont venues aussi questionner notre rapport au travail, la place que le travail occupe aujourd'hui dans la société, dans notre vie. Et on l'a bien vu avec, par exemple, l'expansion du télétravail qui existait déjà avant, mais qui a pris beaucoup plus d'ampleur. Le télétravail, pour moi, est un enjeu aujourd'hui des TPE et des PME. Et il faut aussi bien se rendre compte que tous les secteurs d'activité ne sont pas prêts aujourd'hui à mettre en place le télétravail. On entend de plus en plus dire que c'est un facteur qui se démarque lors d'une embauche ou en tout cas d'une contractualisation quelconque avec un salarié, un freelance, un prestataire. Toutes les formes d'entreprise n'en sont pas capables et surtout, le télétravail n'est pas aisé pour tout le monde. Et on peut avoir certains salariés qui sont très bien en télétravail, qui ont suffisamment de maturité professionnelle et aussi de motivation finalement. Et puis pour d'autres, c'est une forme de travail qui ne va pas du tout leur convenir. Il y a aussi un effet générationnel, puisque avec Quentin, on continue quand même d'intervenir dans les milieux universitaires, que ce soit en école de management, en parcours RH ou en école d'ingénieur. Et on s'est rendu compte que ce qu'on entend dans les médias dire la génération Covid, cette génération Covid, donc, c'est-à-dire les étudiants qui ont clôturé leur diplôme en 2020-2021, ne veulent pas forcément de télétravail, puisque ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils nous disaient finalement, le télétravail, c'est une intrusion du travail dans mon intimité, dans mon appartement. Il faut quand même se remémorer que c'est des étudiants qui éventuellement étaient dans un 20 mètres carrés, où le lit, c'est aussi la table à manger, c'est aussi le canapé pour recevoir les copains, mais c'est aussi l'endroit où on travaille, ou alors il y a une table, mais qui sert, elle, de bureau, de table à manger, de table d'ordinateur, voilà. Et ce lieu qui est déjà très restreint, avec de multiples fonctions, aujourd'hui est re-questionné, puisque vient se rajouter cette fonction travail dans une intimité pour laquelle les étudiants ont envie qu'elle reste intime, justement.
Chapitre 2. Réussir ses recrutements et fidéliser.
Comment rendre une PME attractive ? Eh bien, j'ai de nombreux exemples. Par exemple, d'une société qui fait du marketing direct. Et pour mieux recruter, elle a changé ses process en interne. Elle a été davantage transparente au niveau de ses processus. Et lors des entretiens, elle fait visiter ses locaux pour que le futur candidat puisse se projeter. Dans les annonces, l'entreprise détaille exactement les fonctions du futur recruté, détaille également le salaire en détail avec tous les avantages, les droits aussi et devoirs du futur salarié. En gros, La PME a gagné en transparence et là maintenant, elle a quasiment embauché 3-4 personnes en moins d'un an, alors qu'historiquement, c'était plutôt une à deux maximum. Et donc là, elle a vraiment réussi son challenge. Pour recruter plus facilement en pleine pénurie, l'enjeu est la marque employeur. La marque employeur, c'est pas issu d'une baguette magique. C'est pas parce que la direction souhaite mettre en place la marque employeur que ça va fonctionner. Ça doit vraiment aussi partir d'en bas, c'est-à-dire à tous les échelons de la société, que ce soit les salariés, les managers, la direction, tout le monde doit prendre une part active à la marque employeur. Si ça se résume simplement à une stratégie visibilité 2024, 2025, 2026, ça n'a aucun sens. Ça doit vraiment être vécu par les salariés pour que ce soit authentique et réel.
Pour rebondir sur ce qu'a dit Quentin, je pense qu'il y a trois grandes étapes qui sont importantes dans la marque employeur. La première chose, c'est l'expérience candidat. La deuxième chose, c'est finalement l'expérience collaborateur. Et enfin, la troisième étape, qui est celle qu'on oublie le plus souvent en tout cas, c'est l'offboarding, donc c'est la sortie d'un collaborateur. Il y a déjà l'expérience candidat, c'est-à-dire en amont de l'arrivée d'une personne en entreprise, c'est prendre soin de son candidat, prendre soin des candidatures. Attacher du temps à répondre aux candidats, qu'ils aient commencé un process de recrutement ou non. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est du temps que le candidat il a mis à disposition de votre entreprise pour mettre son CV à jour, pour éventuellement rédiger une lettre de motivation si c'est encore un document que vous demandez. Cette expérience candidat, c'est aussi le respect des questions qui peuvent être posées en entretien. Non, en 2023, on n'a pas le droit de poser à un jeune homme ou à une jeune femme, ou peu importe d'ailleurs qu'il soit jeune ou non, s'il y a un désir de fonder une famille, s'il y a une grossesse qui est en cours. Si la personne est mariée ou non, en tout cas en entretien, ça a très peu d'importance. Il y a d'autres questions qui sont possibles pour essayer de comprendre si oui ou non le candidat il a besoin d'aménagements particuliers par rapport à son emploi du temps, à son temps de travail. Donc ça, c'est déjà l'expérience candidat. Ensuite, on va avoir l'expérience collaborateur qui va venir rythmer l'ensemble de la vie du collaborateur dans l'entreprise. Ce qui signifie aussi que dès le départ, on a conscience que cette vie, elle a une date de fin. Même si elle est limitée, il faut vivre la meilleure expérience possible. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà proposer un parcours collaborateur, une montée en compétences, un programme de formation, une évolution, en fait, finalement, une perspective d'évolution pour le candidat, peu importe son niveau, peu importe son âge. Cette évolution, elle peut être horizontale, elle peut être verticale. Et on parle aussi de plus en plus d'intrapreneuriat. L'ouverture d'un nouveau marché, la mise en place d'une nouvelle offre. Enfin, voilà. Il y a de nombreuses choses en fait, qui sont possibles dans une entreprise. Et surtout, il faut aussi avoir conscience que cette évolution, elle n'est pas uniquement managériale. Et notamment dans les PME, on a tendance à dire « tiens, je vais faire évoluer mon salarié et puis je vais le nommer manager ». Un petit peu comme le télétravail, il y a plein de personnes qui ne sont pas capables et qui n'ont pas envie d'être manager. Et si on les met à un poste avec du management humain, pour le coup, ça peut vraiment arriver, on peut vraiment arriver à des catastrophes et on l'a vu chez nos clients. Mais finalement, la personne, elle ne se sent pas à sa place, elle n'est pas bonne dans ce qu'elle fait. Donc du coup, s'entraîne finalement un management qui est assez malsain, non pas violent, parce qu'on n'est pas forcément jusqu'à une vraie violence, mais en tout cas une personne qui n'est pas à son aise, qui n'ose pas, ou alors quand elle ose, c'est justement avec beaucoup trop de fermeté. Et donc cette évolution, elle n'est pas que managérielle, et ça, il faut en avoir aussi conscience. Et je pense que c'est encore une fois un effet de génération, de se dire « je rentre en tant que stagiaire, puis finalement je suis apprenti, je vais arriver à n'importe quel poste, mais avec junior, senior, et ensuite je vais passer manager ». Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça et qu'il faut surtout s'attacher au parcours de chacun. Le troisième temps de la marque employeur, c'est finalement la sortie. Et il faut la soigner, cette sortie. J'aime pas donner des injonctions, mais dans le « il faut la soigner », c'est déjà prendre conscience que le temps de vie il est limité dans l'entreprise. Soigner cette sortie du salarié, c'est aussi se mettre autour de la table et retracer un petit peu le parcours du collaborateur en disant « qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui a moins été? Quels sont les points sur lesquels l'entreprise a été particulièrement pertinente? Quels sont ceux où tu as eu des déceptions? Pourquoi tu pars ?» Moi, je pars quand même du principe qu'il ne faut pas retenir un salarié qui est sur le départ, parce que s'il est amené à revenir, il reviendra à un moment donné.
Je reviens sur l'évolution des collaborateurs. Raphaël a très bien dit, ce n'est pas seulement horizontal ou vertical, mais c'est aussi poser la question au salarié, qu'est-ce qu'il souhaite? Quel est son levier motivationnel? On a eu le cas d'une salariée qui nous a dit « Moi, je ne veux pas monter les échelons, moi, je veux apprendre. Donc, tant que je ne m'ennuie pas et que je monte en compétences, je peux rester 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, elle a besoin d'être nourrie. » Et bien, c'est aussi ça, c'est comprendre le levier motivationnel des collaborateurs. Et même si on est 2, 3, 4, 5 salariés, ça fonctionne. Chapitre 3. Comment recruter des cadres dirigeants? Comment fait-on et à quel moment sait-on que c'est le bon moment? Eh bien, tout simplement, il n'y a pas de bon moment dans l'année. Il y a des périodes fastes de recrutement, bien évidemment. Mais le bon moment, c'est est-ce que le dirigeant est prêt à déléguer une partie de ses responsabilités ? Première chose. Deuxième chose, est-ce que le dirigeant peut faire confiance ? Faire confiance sur la relation client, faire confiance sur le marketing, faire confiance sur la comptabilité, peut-être faire confiance sur les RH, et jusqu'à quel niveau ? Et enfin, troisième élément, c'est l'amplitude et la marge de manœuvre. On a eu le cas d'une entreprise du BTP, par exemple, où ils embauchaient une DRH très expérimentée, très senior. Ça a très bien fonctionné. Par contre, elle n'avait aucune marge de manœuvre, elle n'avait aucune possibilité décisionnelle. Elle devait constamment avoir l'approbation du directeur général. Alors, ça fonctionne, mais jusqu'à une certaine limite. Et finalement, la DRH était réduite à une exécutante. Donc, elle n'avait pas la plus-value du poste de DRH pour faire avancer la société comme c'était annoncé lors de la promesse d'embauche, notamment. Alors, comment en tirer des profils seniors dans une PME alors qu'ils ont eu un parcours riche d'une grande société où ils sont riches d'expérience ? La première chose, c'est l'authenticité et le projet. Gérer l'authenticité d'une part, parce que lorsqu'on est gérant d'une TPE-PME, on a une histoire, on a une aventure entrepreneuriale, on a un parcours client, on a des produits dont on peut être fier. Il faut savoir le partager. Et ensuite, l'élément, je pense, qui est important, c'est que même si on a fait des grandes sociétés, même si on est riche d'expérience, on veut parfois aussi ne plus être un numéro. C'est peut-être un cliché ce que je peux dire, mais lorsque j'échange avec des cadres dirigeants ou même des cadres supérieurs qui rejoignent des PME, l'argument n'est pas la question du salaire, l'argument n'est pas les avantages en nature. L'argument principal, c'est retrouver du sens. Parce qu'effectivement, nous sommes plus sur le terrain, nous sommes plus au contact des clients ou des collaborateurs, et donc le management est aussi différent. Et c'est ça peut-être l'âme d'une PME. Pour résumer, avant de recruter un cadre dirigeant ou un cadre supérieur dans sa PME, il faut tout d'abord être prêt et également ne pas se précipiter. C'est un recrutement à enjeu qui est stratégique, avec beaucoup d'impact. Et donc, il faut prendre le temps de trouver la bonne personne pour la bonne équipe et la bonne structure.
Chapitre 4, le passage de seuil. Ce passage de seuil, en général, il fait peur. Je dis ça parce qu'on a beaucoup de nos clients qui nous disent « Oh mais mince, là je vais bientôt arriver à 11 salariés, est-ce que ça veut dire que je vais passer un seuil ?» Alors, là, il y a trois finalement seuils qui vont nous intéresser. C'est les entreprises qui ont moins de 10 salariés, ensuite les entreprises qui ont moins de 20 salariés, et enfin les entreprises qui ont moins de 50. Il y a encore deux autres seuils, mais par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, TPE-PME, on va déjà s'arrêter aux trois premiers. Un passage de seuil, c'est finalement un certain nombre de salariés observés sur une période donnée, avec plein d'exceptions possibles et inimaginables. C'est pour ça que moi, ce que je voudrais, c'est déjà rassurer chacun. C'est pas parce qu'on est 11 salariés dans une entreprise qu'il faut absolument mettre en place des élections pour élire donc un CSE, un comité social et économique. Je disais juste avant qu'il y avait un certain nombre de critères finalement pour pouvoir aboutir à ce seuil des 11 salariés. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est 11 salariés sur un certain nombre de mois consécutifs. Donc, ce n'est pas au premier mois que le CSE doit être mis en place, mais c'est finalement à partir du 12e mois de présence effective de 11 salariés. Et ces 11 salariés, ils sont importants parce que bien souvent, quand on est par exemple sur une TPE, les dirigeants, ils ne sont pas salariés, mais ils sont assimilés salariés. Ou alors, ils ont un autre statut qui n'a rien à voir avec le salariat. Mais vous pouvez être 11 en effectif dans votre entreprise, mais finalement, être que 10 ou 9 salariés parce qu'il y a un ou deux dirigeants.
Au niveau des passages de seuil, il faut bien prendre en compte qu'un apprenti, par exemple, n'est pas comptabilisé, de même qu'un stagiaire ou un CDD de remplacement. Donc, si vous avez un heureux événement dans vos équipes avec une personne qui est en congé maternité et que vous avez pris un CDD pour pallier à cette absence, eh bien, ça ne fait pas un salarié de plus. Le nombre d'effectifs ne change pas. Donc, ce passage de seuil, il est vraiment assez souple. C'est vraiment un équivalent temps plein qu'il faut prendre en compte. Quand on parle de passage de seuil, vous entendez peut-être certaines entreprises qui disent « Nous, on reste en dessous de 49 salariés ». Eh bien, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'à partir de 50, vous avez certaines obligations, comme aménager une salle de restauration. Ça peut être aussi établir un règlement intérieur, si ce n'est pas déjà fait par le passé notamment. Donc, vous avez certaines contraintes supplémentaires et obligations sociales envers les salariés. Alors, je ne rentre pas plus dans la technique. Vous avez les principaux éléments. Vous avez le site du gouvernement qui s'appelle entreprendre.service-public.fr qui est bien fourni en termes de documentation. Vous pouvez également vous rapprocher de RH qui peuvent, avec grand plaisir, répondre à l'ensemble de vos questions pour les passages de seuil.
Chapitre 5, la santé au travail et notamment par l'intermédiaire d'Octobre Rose. À un moment où on tourne ce podcast, la campagne d'Octobre Rose a commencé. Mais avant de parler d'Octobre Rose, je voudrais plus m'attarder sur la santé au travail. Les salariés, les employeurs, ils ont chacun des devoirs et des obligations l'un envers l'autre. Au-delà du contrat de travail, c'est, on va dire, presque des obligations morales. Une des obligations de l'employeur, c'est de garantir la sécurité des salariés. La sécurité au travail, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est déjà la sécurité physique. C'est éviter que vous tombiez tous les 4 matins dans les escaliers, que vous fassiez une cheville, ou au contraire, si vous êtes amené à porter des charges lourdes, être toutes les semaines chez l'ostéo, chez votre médecin traitant, parce que vous vous êtes fait mal au dos. Chaque travail, oui, a une certaine pénibilité, même le travail assis et derrière un bureau. Et c'est aussi la santé, on va dire, mentale et psychologique. Alors, on entend beaucoup parler de burn-out, par exemple, mais c'est veiller à ce que vous ayez le temps de récupération entre 2 journées de travail. Veiller à ce que vous ayez finalement, en tant que salarié, les jours de repos réglementaires. Voilà, tout ça, ça fait partie des obligations et des devoirs de l'employeur. Les acteurs qui sont importants dans la santé au travail, le premier, forcément l'employeur, parce que c'est une de ses obligations. Mais vous avez aussi des organismes. Vous avez, par exemple, Pôle Santé Travail. Vous avez également les caisses de retraite, je pense à la CARSAT ou autres, qui vont être amenées à travailler sur cette thématique. C'est pour ça que s'est développée depuis quelques années aussi la profession de psychologue au travail. Donc, c'est des psychologues qui sont, on va dire, experts du monde du travail et de ces mots MAUX. Ça, c'est une première chose qui est importante. On parlait aussi tout à l'heure, finalement, marque employeur, d'expérience candidat, d'expérience collaborateur. Cette expérience collaborateur, c'est ça aussi. C'est bien se sentir au travail. Et bien se sentir au travail, c'est pas mettre un baby-foot et puis donner le café gratuit pour tout le monde. C'est un petit peu plus poussé, ça va un petit peu plus loin que ça. Et ça répond vraiment à des enjeux de santé globale. Le deuxième sujet qui me vient, moi, quand on parle de santé au travail en ce mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Alors, c'est un sujet qui m'est cher et qui est un petit peu particulier pour moi puisque en 2021, j'ai été touchée par un cancer du sein. Je passe tout de suite à la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vais bien. Je suis en rémission, les traitements ont fonctionné, donc tout va bien pour moi. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est important et qui, au-delà finalement du cancer du sein, va poser cette question de la santé au travail, mais quel est l'impact que l'employeur peut avoir sur cette santé au-delà de ses obligations ? Moi, la première chose que j'ai tendance à dire, c'est le choix de la mutuelle. Alors là, quand on est en train d'enregistrer ce podcast, mes deux interlocuteurs me regardent un petit peu étrangement. Mais oui, ce choix de la mutuelle, il est important. C'est une obligation pour l'employeur de proposer une mutuelle avec une prise en charge à 50%. Ça, c'est une obligation, ce n'est pas un avantage. Par contre, le choix de cette mutuelle et de la couverture de cette mutuelle, ça revient finalement à l'employeur. Il n'y a aucune obligation qui oblige, oui, l'employeur à ce qu'il y ait une couverture sur tel ou tel soin. Donc ce choix de la mutuelle, pour moi, il est important. Le choix de la prévoyance, également, il est important, puisque dans certaines conventions collectives, la prévoyance est une obligation. Donc ça peut avoir un impact, notamment dans le cas d'un cancer du sein, puisque au bout d'un certain nombre de jours, de semaines d'arrêt, voire de mois d'arrêt maladie, effectivement, la sécurité sociale ne prend plus totalement en charge le salaire de base. Et donc, il peut y avoir un complément qui est soit fourni par l'employeur, s'il en a fait le choix, ou alors par la prévoyance. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Comment on peut agir en tant qu'entreprise ? Alors, pas pour le cancer du sein, mais bien contre le cancer du sein. Il y a plein d'initiatives qui sont possibles. Soit c'est participer à une course, faire un running en équipe, soit sous forme de relais si on n'est pas très sportif, ou alors en solo. Ça peut être aussi également récolter des t-shirts en coton pour ensuite les transformer en bonnets pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer, parce que quand on n'a plus de cheveux, on peut avoir un peu froid au crâne. C'est un petit détail, mais qui a quand même son importance. Ça peut être aussi sensibiliser à l'autopalpation et surtout se dire que le cancer du sein, c'est un cancer qui concerne tout le monde et surtout qui ne concerne pas que les femmes, puisqu'il y a des hommes aussi qui sont touchés, donc sur un pourcentage qui est minime, mais c'est une réalité. Donc, c'est assez facile de s'engager pour Octobre Rose ou finalement,
pour n'importe quelle cause de santé qui concerne vos salariés. Si vous vous êtes rendu compte que finalement, vous aviez beaucoup de salariés qui étaient amenés à fumer, c'est peut-être se dire, bah, tiens, si on s'engageait pour le mois sans tabac.
On va conclure cet épisode avec les risques psychosociaux. Souvent, lorsqu'on aborde cette thématique, on a le terme « burn-out » qui nous vient à l'esprit. Eh bien, ce n'est pas que ça. On peut avoir le burn-out, on peut aussi avoir des arrêts maladie qui peuvent être à répétition, on peut aussi avoir un sentiment de fatigue, on peut avoir des pertes de poids, on va dire, relativement anormales, on peut aussi avoir des prises de poids qui sont normales, des difficultés au niveau du sommeil. Il y a beaucoup d'indicateurs de cette manière qui peuvent arriver lorsqu'on est confronté à des RPS.
La question était finalement de se dire comment, en tant qu'employeur, on peut pallier à ces RPS. Alors déjà, c'est avoir en tête qu'il y a un certain nombre de risques qui existent en entreprise, déjà par le fait de travailler. Ces risques sont repris donc dans un document, c'est ce qu'on appelle le DUERP. Ce document, soit vous pouvez le mettre en place par vous-même, ou alors vous pouvez contacter n'importe quel cabinet RH qui fera du conseil RH, et vous avez même un accompagnement qui est possible avec Pôle Santé Travail. Là, je voudrais aussi insister, c'est que bien souvent, Pôle Santé Travail, on se dit, bah mince, ils vont venir un petit peu nous sanctionner parce qu'on a des mauvaises pratiques. Non. Pôle Santé Travail, ils sont là pour faire aussi de la prévention et de l'accompagnement. C'est une structure qui préférera 1000 fois un dirigeant qui les appelle en disant, là, j'ai besoin d'aide sur tel ou tel sujet, plutôt que de découvrir lors des visites médicales, par exemple, que les salariés n'en peuvent plus et qu'ils sont tous dans un burn-out. Moi, la première chose que je verrais pour éradiquer, en tout cas limiter les risques psychosociaux, c'est finalement veiller à la charge de travail de chacun. Sa charge de travail, elle ne doit pas être trop importante, elle doit être aussi suffisante. Parce qu'il existe le burn-out, mais il existe aussi le bore-out, c'est-à-dire l'ennui au travail, finalement. Donc sa charge de travail, elle doit être dans la mesure du possible constante. On sait très bien que dans les entreprises, il y a une saisonnalité de l'activité et peu importe l'activité. Une des premières choses, c'est veiller à cette charge de travail. La deuxième chose qui va de pair avec cette charge de travail, pour moi, c'est le respect des horaires. Vous vous rendez compte que finalement, vos salariés font systématiquement des heures supplémentaires. C'est peut-être le moment de se poser la question, est-ce que le contrat de travail, il est adapté? Est-ce que la charge de travail, elle n'est pas trop élevée? Et à ce moment-là, se poser la question, est-ce qu'on va revoir les contrats de travail ou alors est-ce qu'il faut une nouvelle embauche?
Le troisième élément, c'est l'écoute. Il faut permettre aussi aux salariés de venir vous voir, échanger, parler des problématiques qui leur importent. Souvent, la communication est la clé et peut déverrouiller de nombreuses problématiques. Quand j'aborde la thématique de la communication, c'est aussi bien du verbal, du non-verbal. Parfois, on a un salarié autour de la machine à café qui nous dit « En ce moment, c'est compliqué ». Eh bien, c'est pas juste « Oh, d'accord, bon, bonne journée ». Non, c'est pas ça. C'est dire « Bah, qu'en est-il ? » Échanger un petit peu avec lui, proposer de le voir un petit peu en aparté dans l'après-midi ou dans la semaine, prendre un petit temps d'échange. Le salarié ne va pas forcément et spontanément se confier. Par contre, il en a l'opportunité. Et c'est cette opportunité-là qu'il faut lui laisser.
Chapitre 6, conclusion.
Pour conclure, durant tout ce podcast, on a évoqué les salariés, les obligations de l'employeur, mais on doit aussi se concentrer sur les dirigeants qui parfois n'osent pas s'exprimer, parfois n'osent pas partager. Eh bien oui, vous aussi, chef d'entreprise, ben vous pouvez échanger avec vos pairs, vous pouvez aussi échanger avec un cabinet RH externalisé sur vos problématiques et vos enjeux, parce que vous pouvez aussi être sujet à des maladies, vous pouvez aussi être sujet à des burn-out, vous pouvez être sujet à plein de problématiques.
Moi, si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est prenez soin, finalement, des hommes et des femmes qui composent votre organisation, puisqu'on le sait très bien, aujourd'hui, ils ne resteront pas 10, 15, 20 ans dans votre société, mais peut-être qu'au moment de leur départ, vous continuerez à travailler avec eux d'une manière ou d'une autre, et finalement, ils seront prescripteurs de votre entreprise, soit prescripteurs de candidats, ou alors de prospects, puis de clients. Donc prenez soin des hommes et des femmes qui vous entourent, parce que si vous un jour, en tant que dirigeant, vous avez besoin de prendre soin de vous, c'est sur eux que vous pourrez compter pour maintenir l'activité de votre entreprise.
Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille et la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée.